France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Archigramme. Peut-être, très brièvement, peut-on rappeler qu'Archigramme fut ou est un mouvement anglais et une revue d'architecture. Mais Archigramme n'est pas le sujet du panorama qui vient, présenté par Jacques Duchâteau le 27 février 1997 sur France Culture. Le sujet, c'est le Centre Pompidou, dont on célébrait alors le 20e anniversaire. Le Centre Pompidou et son architecture est l'exposition donnée précisément à l'occasion de ce chiffre rond. Paris, lieu de création exceptionnelle, trois générations de création, et puis l'exposition donc, et encore l'atelier Brancusi. A-t-il un rapport avec le véritable atelier de Brancusi ? Un participant à l'émission semblait en douter.
Bonjour, avec l'actualité des Beaux-Arts aujourd'hui pour la suite du panorama des expositions de très très nombreux livres et nous sommes en compagnie de Dora Valier, Véronique Schild, Francesca Isidori, Marcelin Plenet, Jean-Louis Ferrier et Pierre Cabanne. Raffinerie ou l'usine à gaz, comme vous voudrez, a totalisé 146 millions de visiteurs en 20 ans. Il s'agit de Beaubourg ou le centre Georges Pompidou. Alors, les raisons du succès, l'ensemble de la presse s'interroge. Pourquoi ce succès ? On trouve plusieurs raisons. La première, ça serait l'opinion de Renzo Piano qui disait, lorsqu'on lui avait demandé pourquoi Beaubourg et pourquoi avoir mis toute l'architecture, l'infrastructure à l'extérieur, il a dit parce que comme ça va ressembler à une gare et les gens entrent facilement dans une gare tandis qu'ils n'entrent pas dans un musée. Ça, c'était la première.
Mais ça, c'est une réponse un peu en l'air.
C'est pas une réponse en l'air, c'est une réponse qui se chiffre par 146 millions de visiteurs alors qu'on en attendait le tiers.
Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que c'est le seul bâtiment Archigramme. Vous savez qu'Archigramme a fait, il y a une trentaine d'années, toute espèce de plan pour des villes, etc. etc. En Angleterre, ils n'ont jamais rien construit. Et la seule architecture Archigramme, c'est-à-dire totalement nouvelle à cette époque-là, c'est Beaubourg.
Ce n'est pas la seule.
Est au centre de Paris. Parce qu'on en a longtemps discuté pour savoir si elle ne serait pas dans le plateau Défense, qui à l'époque était vide, on l'a mis au centre de Paris, et c'est la raison pour laquelle tous les cars japonais y vont.
Beaubourg n'est pas qu'une architecture. Beaubourg n'est pas qu'une architecture, c'est une activité considérable.
Il y a trois raisons qui sont données par l'ensemble de la presse. La première, c'est que c'est une gare, et dans une gare, on entre facilement. La deuxième, c'est que c'est gratuit comme l'entrée dans une gare.
Le musée n'est pas gratuit.
C'est plus gratuit.
Il y a beaucoup d'ambiguïtés.
Le reste, l'entrée,
on entre dans le hall,
on entre dans le hall gratuitement. Si vous avez froid, vous pouvez entrer, vous réchauffer dans le hall.
Il s'agit de savoir quel train on va prendre à Beaubourg.
Et la troisième raison, c'est la diversité des disciplines qui sont abritées à Beaubourg.
Ça, voilà,
les trois raisons essentiel donné par la presse pour expliquer ce succès, parce que c'est un énorme succès.
Je peux prendre la parole.
Vous
justement, je voulais apporter une petite rectification. Vous avez dit que c'est la seule architecture Archigramme. Oui, à destination culturelle, car le principe de cette architecture-là concerne les industries, la structure des industries qui devraient être se détruire toute seule, parce que nous voyons ce qui se passe avec nos industries du 19e. Eh bien,
C'est ce qui se passe avec Beaubourg. Rappelons-le, Beaubourg va fermer, enfin partiellement, pendant quelques temps.
Mais c'est quand même la première fois qu'un monument construit, archigramme ou pas, depuis 20 ans, est en train de s'écrouler, tout de même.
Exactement.
Enfin, c'est un le musée d'art moderne, ils exagèrent un peu, ils ne s'écroulent pas. On est obligé de le fermer pendant 2 ans pour le refaire, pour le restructurer. Enfin, le musée d'art moderne, on peut en penser ce qu'on veut, de l'avenue président Wilson, mais il tient debout depuis 1937.
Oui, oui, mais la Tour Eiffel, vous savez qu'elle est repeinte. Vous savez que la Tour Eiffel, on la repeint tout le temps.
Oui, on la repeint. Moi, je veux bien qu'on la repeint.
On la repeint, on l'a allégée aussi.
Parce que les architectures de métal, c'est extraordinaire. Mais c'est fragile, les architectures de métal. C'est bien connu.
C'est précisément parce que nous sommes ici, dans la maison de la radio, qu'on peut voir la fragilité architecturale de Beaubourg. Cette maison-ci, d'où nous parlons en ce moment, a 30 ans, elle les a fêtés. Et tout est si, j'avais vu 30 ans, non ?
Oui, c'était non, écrit. Mais ça, c'est un autre problème.
C'est pas aussi simple. Mais moi, quand j'entre ici, je vois le sol.
Non, mais enfin, nous ne recevons encore aucun boulon sur la tête.
Oui, il y a beaucoup de monde qui passe.
Regardez.
Exemple trivial, très simple. Quand je suis entrée pour la première fois dans cette maison, il y a 30 ans sans doute, bon, le sol était le même. À Beaubourg, on a commencé à changer les morceaux. De tapissomme ou quoi.
Bon, on ne peut pas fonder ce raisonnement sur une comparaison, on s'en tient pas debout.
Non, on est en train de parler ménage, c'est pas très sérieux. Beaubourg n'est pas dépendant de ça. Beaubourg n'est pas dépendant de ça. Beaubourg est dépendant, à mon avis, d'une activité qui a été considérable et d'un certain nombre d'initiatives qui ont été très importantes et qui ont même fait de Paris, puisque Beaubourg est au centre, en effet, de Paris, qui ont même fait de Paris, d'une certaine façon, la capitale de l'Europe, à travers des expositions comme Paris-New York, comme Paris-Berlin ou comme Paris-Moscou, qui ont été des expositions considérable, mais pas seulement considérable sur le plan strict de l'exposition, considérable comme initiative et comme initiative à l'intérieur du monde culturel et pas du monde culturel français, de l'Europe et du monde en général. Ce programme-là a été un programme extrêmement important.
C'est
un peu évidemment les budgets ont été rognés et en effet le gros problème du bâtiment c'est qu'il mange un argent considérable. Mais en dehors de ça, il faut bien voir que les initiatives de ce musée ont vraiment fait de Paris, dans ces initiatives, le centre et la capitale de l'Europe.
Oui, mais c'est le contenu dont nous parlions.
Petit détail, ils ont dû refaire l'intérieur. Contrairement au principe de la structure ouverte, il a fallu faire des structures fermées, comme toutes les salles du musée.
C'était comme une espèce de décor qui était.
Mais ils ont été obligés de le faire parce que la lisibilité n'y était pas dans la structure ouverte.
Des œuvres. Mais je crois
que. C'est une politique de conservateur, c'était la politique de Bozo, qui était gênée en effet par l'ouverture de.
Je crois quand même que. Tout ce que vous dites est vrai, c'est que s'il n'y avait pas eu une activité importante et débordante pendant 20 ans, on n'aurait pas parlé. Mais tout de même, je crois que l'originalité, la grande originalité de l'architecture est extrêmement importante. Oui. Moi, je ne crois pas du tout
qu'il y aurait... Vous pensez que cette architecture a attiré du public?
Ah, mais je pense, parce que c'est une curiosité. N'oubliez pas en plus que quand on est au 5e étage, on a la plus belle vue qui soit sur Paris. Donc, ce que je veux c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Je crois que si on avait construit un bâtiment, par exemple, en pierre de taille, je ne crois pas du tout qu'il aurait attirer autant de personnes. Je crois que c'était une espèce d'événement, phénomène, quelque chose.
Renzo Piano avait raison.
Mais bien sûr, quelque chose de particulier et qu'il fallait aller voir, parce que n'oubliez pas que dans les manuscrits, n'oubliez pas que dans les expositions d'art dont vous parlez, c'est une petite minorité des 146 millions qui sont allés. En général, les gens ne vont pas dans les expositions payantes.
Je
ils vont à la bibliothèque, ils vont ils dans vont les différents
espaces,
ils vont au cinéma.
Mais il faudrait faire la différence des publics entre les divers domaines qui sont.
Mais ça, c'est ce que la presse insiste. Il n'y a pas un public, il y a des publics.
Mais je voudrais vous poser une question. C'est vrai, tout était ouvert. Par exemple, la cafétéria. Qu'est-ce que vous savez, vous? Moi, je crois qu'elle descend au sous-sol, au rez-de-chaussée maintenant. Précisément parce que le second public ne soit pas dedans.
On me disait, pas plus tard qu'hier, moi je trouve qu'il y a une chose atroce et qui a formidablement vieilli, c'est la moquette. Et je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas changer? Non, c'est vrai.
Non, mais je crois qu'on va l'exposer comme le bœuf sans feutre. On va exposer la moquette de Beaubourg dans le prochain Beaubourg.
Il va y avoir une expression
le bœuf.
D'ailleurs, ils m'ont demandé de la signer, la moquette.
Non, ils vont recouvrir le bœuf de moquette.
Bien, alors.
Non, il m'a été répondu que ça n'était pas certain pour des raisons de budget.
Toute la France sera un musée.
N'empêche que la manière dont vous en parlez, édifice qui est au centre de la ville, édifice qui draine les foules, édifice qui fait scandale et édifice bleu et rouge, on pourrait dire exactement la même chose du Parthénon qui a fait un grand scandale à son époque.
Oui, mais qui est en ruine.
Mais il avait un autre usage.
Parce qu'on ne l'a pas restauré à temps. Négligence.
Made in France, hein, c'est ça, Made in France. Donc c'est l'accrochage de l'exposition organisée à Beaubourg pour Beaubourg Pompidou pour ses 20 ans. Alors certains ont écrit c'est Combas contre Picasso, cette exposition.
Ouais, j'attends un peu.
Picasso, c'est Picasso et Combas, ça serait le représentant de la. Figuration aujourd'hui.
Mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Non, ce qui est tout à fait important, c'est autre chose, c'est que ça montre.
Non, mais il y a quand même cette.
Dans la même salle, il y a Combas.
Ces gens-là n'aiment pas Picasso.
Ce sont des œuvres postérieures à 1945.
Non, ce qui est formidable.
C'est la grande peinture de la seconde après-guerre.
Non, ce qui est formidablement important.
Ferrier.
C'est que, et d'ailleurs, d'une certaine manière, Beaubourg y a contribué, c'est qu'on nous a seriné pendant 40 ans qu'il n'y avait pas d'artistes à Paris, que Paris était mort, etc., etc. Et on voit là qu'il y a une vingtaine de mouvements qui vont de Cobra en passant par le cinétisme jusqu'à Support Surface, et j'en oublie bien entendu, et on se rend compte non seulement qu'il y a des mouvements qui se sont succédés, au moins autant qu'à New York, mais un certain nombre de peintres d'une très très grande qualité qui vont de Faudrier à Mathieu, etc. La création de l'abstraction lyrique par Mathieu, ça n'est pas rien. Alors, on peut regretter un certain nombre de choses, bien entendu, parce que tous ces messieurs sont exposés, je dirais volontiers, selon des labels qui sont un peu stupides. Par exemple, il y a une partie de l'exposition qui s'appelle Le Corps, une autre Spontanéité, une autre Enfouir, une autre Alchimie, etc. Mais ça n'est pas grave. Il y a aussi des oublis. Mettre un tableau de Vasarely, ça n'est tout de même pas suffisant. Il n'y a pas de sculpture de Nicolas Schaeffer, mais tout ça n'a pas d'importance. Quand on voit cette exposition, il y a plus de 500 œuvres. On se rend compte que Paris, ces 40 ou ces 50 dernières années, a été un lieu de création exceptionnel. Et pas du tout ce que la propagande américaine a voulu nous faire croire.
Mais elle réussit quand même, la propagande américaine, à donner un titre anglais à une exposition française.
Mais oui, mais on dit, oui, mais c'est pas ça.
Non, mais ce qui est
Mais pas du tout. C'est parce que
mais
tout objet.
Qu'est-ce que la propagande américaine veut nous
couteau,
faire croire
marqué,
que tout se passe à New York?
Sur mon couteau, c'est marqué Made in Switzerland. Ouais. Ce que je veux dire, ce que vous dites là n'a pas de sens.
C'est un mot anglais. Ça peut s'appeler en France.
Non.
Et puis c'est pas un couteau, c'est pas un objet préfabriqué. C'est sur l'art français.
Ça, c'est une question.
Vous terminez, Ferrier.
C'est une question de détail. Ce qu'on voit, c'est l'importance, la grandeur, la variété d'une époque dont on nous a dit il n'y a rien en France. Et cela, c'était faux. Et je trouve que c'est, du point de vue de Beaubourg, un formidable, formidable événement que de montrer qu'il y a eu une peinture. Yeah. J'aime aussi beaucoup, alors indépendamment des titres qui sont stupides, l'accrochage qui n'est pas fait chronologiquement.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que vous avez bien là, à côté de Matisse, par exemple.
C'est
une très grande manière d'avoir justement cassé les catégories. J'enchaîne de la façon la plus directe, parce que les comparaisons ne sont pas du tout arbitraires, au contraire. D'entrée de jeu, que voit-on? On voit Matisse et à côté de lui, on voit Buren.
Bon,
Viala aussi.
Non, Buren, on le voit pas. Il fait
on le voit pas.
Mais il est là.
Les c'est... nus de Buren sont splendides.
Oh, et une...
Mais ils sont
c'est-à-dire,
ils sont
il y a eu... Qu'est-ce qu'on voit plus loin?
Combat, Picasso.
On va plus loin. Combas, Picasso, les relations sont directes. Parce que la peinture française, en France, a eu ses disciples qui ont tourné le dos au père, qui ont coupé tous les cordons ombilicaux. Dans le cas Matisse, Buren, c'est évident. Mais il y a eu ce sol fertile que la France a été. Maintenant, pourquoi Made in France ? Moi, je vois très bien beaucoup d'ironie dans ce titre, parce que si on a suivi un petit peu tout ce qui pouvait, la presse américaine pouvait dire contre la France, contre Paris, dans les années 70, il y avait Nicolas Callas qui s'en donnait à cœur joie.
Vous êtes en train de dire que le titre est adressé aux Américains, non, donc il est américanisé.
Il est, mais non, c'est un joke à l'anglaise. Bon, prenons ce mot-là. Messieurs les Américains, moi je vois le nom dit derrière le titre comme ça. Messieurs les Américains,
made a deux sens en anglais.
Made in France.
Oui, mais enfin, le problème est là.
Non,
oui. Le problème est ailleurs.
Le nom dit de cet intitulé en anglo-saxon serait « Messieurs, vous nous avez tant dit que nous sommes le pays qui fête les centenaires. » Eh bien, « Made in France », voilà ce qui se fait en France.
De la façon la plus colloquiale. L'important, c'est de pouvoir associer dans une période qui coûte un demi-siècle des gens de générations différentes qui se voisinent, qui s'affrontent et qui prouvent au fond qu'il y a eu en France de formidables courants, de formidables mouvements, des créateurs et des suiveurs. Il n'y a pas de chronologie, il y a des affrontements, il y a Chagall-Barcello, il y a Paul Yakov-Roy. Il y a des grandes salles de buffet de Soulages. Il y a une incohérence à la fin, parce qu'à la fin, on s'essouffle, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Il y a un côté labyrinthique qui est extrêmement embêtant. Et les affrontements et les comparaisons sont parfois même choquantes, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une formidable richesse. Et c'est ça, je crois, la grande leçon. Bien. Que ce soit Made in France et surtout Made in Peinture.
Made in Tout France, à donc, à Beaubourg-Pompidou, l'atelier de Brancusi.
Ah, ça,
Attendez, l'atelier de Brancusi qui a été refait. Alors rappelons que Brancusi avait tout légué à l'État, mais il fallait que l'État s'occupe de sa postérité, c'est-à-dire notamment de son atelier. Or l'atelier était dépendant plus ou moins de l'hôpital Necker, donc il a été transporté, au sous-sol du palais de Tokyo. Puis après ça, il est allé se promener du côté de Pompidou, mais il n'y avait pas la place dans Pompidou. Alors on a construit un petit édicule que personne ne regardait, semble-t-il. On ne va pas entrer dans tous les détails parce que c'est vraiment un peu
Moi, je tiens à dire quand même une chose
Aujourd'hui, il y a l'atelier Brancusi, mais on ne peut pas pénétrer dans cet atelier.
Moi, j'ai habité à côté de chez Brancusi. Je suis entré dans son atelier 50 fois. Je peux dire que celui qui est refait au centre Pompidou n'a strictement aucun rapport. Il n'y a rien du tout. Il y a simplement des présentations style Galerie Lafayette, encadrées de couloirs et présentées derrière des vitres. Oui. Brancusi, s'il voit ça, il doit se retourner une cinquantaine de fois.
Il faut expliquer le pourquoi.
C'était un lieu fermé qui avait une âme, où tout avait été fait par Brancusi. Les sculptures, évidemment, mais les socles, les meubles, le poêle, et même le moulin à café. Eh bien, tout ça a perdu complètement son âme à cause de ces immenses vitrages, et puis surtout, l'ouverture sur l'extérieur. Parce que l'atelier de Brancusi était évidemment fermé, c'était un lieu clos.
On ne peut pas pénétrer dans cet atelier, mais que l'on voit l'atelier de l'extérieur, puisque l'atelier est entouré de vitres, donc on se promenait tout autour.
C'est absolument une hérésie totale.
Il n'était pas pensable que l'on puisse mettre la foule dans l'atelier de Brancusi.
Au palais de Tokyo, on pouvait pénétrer dans l'atelier. Il était beaucoup plus proche de l'atelier, de la vie de l'atelier, que ce papier glacé qu'on a là.
La première reconstitution qui avait été faite par Picasso était absolument respectueuse de l'esprit de Brancusi, de la disposition des meubles. Là, c'est vraiment un grand magasin.
Papier glacé ou non ?
Mais ça, vous avez parfaitement raison. Ces vitres, c'est un peu gênant. Mais il faut expliquer pourquoi. C'est que lorsque les gens pénètrent
Parce que personne de ceux qui ont fait l'atelier ne l'ont vu.
C'est que lorsqu'on pouvait pénétrer à l'intérieur, et dans un premier temps, dans la première présentation, l'exposition sur la place Beaubourg, on pouvait pénétrer à l'intérieur et on était en contact avec les œuvres, les outils, les objets. Or, plusieurs objets, plusieurs outils ont disparu. Ben oui, ben oui. C'est-à-dire que si on ne voulait pas que cet atelier disparaisse purement et simplement, il fallait, mais c'est exactement la raison.
Oui, c'est l'économie de gardiennage, les
filles. Absolument, c'est une question de gardiennage.
Mais non,
enfin, on n'emporte pas un brancoussi sous le bras, quand même.
C'est le moulin à café.
Oui, ben oui, on pouvait emporter un brancoussi.
Non, il y a...
Effectivement, on pouvait emporter.
Il y a quelque chose de gênant, parce qu'on ne peut pas mettre la vie sous verre. Là, certainement, ça nous gêne tous. Mais pourquoi a-t-on été obligé d'accepter le testament tel qu'il est, parce qu'il y a un problème de volonté testamentaire qu'on ne peut pas casser. Vous dites, n'est-ce pas, là, il a surgi sur la piazza, etc. Mais c'est que Brancusi voulait la reconstitution par testament. Donc, que faire, là ?
Il ne voulait pas comme
Pierre,
ça, certainement.
Vous qui avez vu l'atelier, qu'est-ce qui était le signe distinctif par excellence, les années tardives où je l'ai vu ? La poussière.
La poussière, bien sûr.
La poussière partout. Des centimètres et des centimètres de poussière. Alors, voyez-vous, non, mais même pas. Il n'en voulait pas. Mais que voulez-vous ? La vie n'est pas faite pour aller sous verre. Les musées sont un pis-aller de la... Comme ça, de l'immobilisation.
Problème insoluble.
Vous avez raison.
C'est pas soluble. C'est l'emploi d'un vieux musée.
Comme nous le disions tout à l'heure, la première reconstitution était extrêmement beaucoup plus respectueuse.
Ça met quand même en évidence du palais de Tokyo à ce qui est fait aujourd'hui. Ça met en évidence une façon de considérer les œuvres d'art qui est très différente, qui est de plus en plus en effet glacée, qui est de plus en plus de l'ordre de la photographie, qui est en plus de l'ordre de l'image reproductible. Alors que, précisément, un atelier ne peut littéralement pas être ça. Alors, ou bien on présente l'atelier et on le laisse vivant, ou bien on disperse les œuvres dans le musée et à partir de ce moment-là, elles deviennent...
C'est la raison pour laquelle on a fait de l'anti-Brancusi.
Bien, conclusion, Ferrier.
Vous dites, Nora Vollier, nous n'aimons pas les vitres. Moi, je m'excuse, je les aime beaucoup.
Ah.
Je suis très, très content de pouvoir faire le tour de cet atelier, de le voir dans tous les sens, parce que permettez-moi de vous dire qu'avant, lorsqu'il n'y avait qu'une seule face, on ne voyait strictement
rien. Oui, mais c'était du vrai Brancusi.
Alors, oui, bien sûr, ça, je vous l'accorde.
Ah. Je peux vous dire
les
que pour les raisons sentimentales, voilà, je n'ai pas vu la
précédente. Les 20 ans de Beaubourg, le centre Georges Pompidou, avec une exposition Made in France et la réouverture de l'atelier Brancusi.
When she had 20 years, when she turned to her mother, saying, Mother, I know that you'll grieve, but I've given my soul to St. John the gambler. Tomorrow comes time to leave, for the hills cannot hold back my sorrow forever, and dead men lie deep round the door. Oh, the only salvation that's mine for the asking, so mother, think on me no more. And winter held high round the mountain's breast, cold of a thousand snows lay heaped upon the forest leaf, but she dressed in calico for a gambler likes his women fancy she would be. And the fire of her longing would keep away the cold, and her dress was a sight to see. But the road was long beneath her feet, she followed her frozen breath in search of a certain St. John the gambler, stumbling to her death, she heard. rafter right down from the mountains and dance with her mother's tears to a funeral drone or calico neath the cross of 20 years. To a funeral drone of calico neath the cross of 20 years.
C'était le Panorama, présenté par Jacques Duchâteau à l'occasion du 20e anniversaire du Centre Georges Pompidou. Première diffusion sur France Culture le 27 février 1997. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.